Midi 37, merci beaucoup à Tommy qui a travaillé très fort sur la production. C'est l'Halloween.
J'adore.
C'est l'Halloween. On parle automobile avec notre chroniqueur auto, Mathieu Thomassin. Je ne sais pas s'il est rendu aux États-Unis. Il m'a dit qu'il voulait aller là pour les élections la semaine prochaine. Salut, Matt.
J'ai oublié de l'appeler hier.
Bonjour, c'est Matt.
T'es-tu déjà parti pour là-bas? Là? Qu'est-ce qui te prend d'aller là-bas?
Mais non, je suis pas encore parti pour là-bas. Malheureusement, je peux même pas dire pourquoi que je m'en vais là-bas la semaine prochaine, mais je serai quand même du côté de Los Angeles et je vais vivre les élections en plein milieu de l'action. Là, ça me fait rire parce que, tu sais, je pars pas tout seul. Là, j'ai comme une équipe, mais là, mon collaborateur, caméraman, mon homme à tout faire me dit « Ouais, mais là, ça va être dangereux. » Lui, déjà parti. Avec l'idée que ça va être The Battle of Los Angeles quand il va avoir l'annonce électorale du côté là-bas. Puis là, ben, j'ai expliqué que dans la vie, c'est le fun. Il va pouvoir dire à ses petits-enfants qu'il va avoir vécu ça dans sa vie. Puis écoute, si ça vire en bordel, ben, on sera au milieu du bordel. On filmera le bordel, c'est tout.
Écoute, les Dodgers qui ont remporté la game hier, t'as-tu vu comment ça a fini à Los Angeles? Ils ont mis Los Angeles à feu et à sang.
C'était agressif.
Ouais, pas pire.
En tout cas, start-les pas, là, parce que s'il nous écoute en ondes, il ne voudra plus partir avec moi, puis il va avoir peur. Fait que, on va essayer d'éviter ça. J'ai besoin de mon staff.
Ah, je pense que ça devrait bien aller. C'est le CIMA Show qui s'en vient, mon ami?
Oui, monsieur, le CIMA Show de Las Vegas. Le CIMA, c'est quoi? Ben, c'est premièrement du 5 novembre au 8 novembre. Habituellement, c'est toujours dans le temps de l'Halloween, là, vers le 31, comme aujourd'hui. Et c'est là qu'on se rend compte à Vegas qu'on n'a pas les mêmes infirmières à Québec et à Las Vegas hein, quand c'est l'Halloween. Là. Et on a aussi ce qui est le CIMA. C'est vraiment le salon de l'automobile, des modifications, des pièces. Depuis au-dessus de 20 ans maintenant, c'est le show mondial à ne pas manquer. Et souvent, les manufacturiers vont créer différents véhicules pour se démarquer et démontrer leur savoir-faire, mais non seulement aussi, il y a des fois quelques lancements. Pour l'instant, ça semble tranquille, mais les deux manufacturiers qui ont attiré mon attention avec des concepts ultra originaux, c'est simple, ben, c'est Stellantis présentement qui vont avoir créé une version assez inédite de la mythique Plymouth GTX 67. Mais attention au grand sacrilège, et là, on rajoute une voix, tu sais, c'est comme des films d'horreur, tu as toujours comme un petit son avant, puis là, c'est le vampire qui apparaît, là. Elle est électrifiée. Donc, on l'appelle la Plymouth GTX Electromode. C'est un concept qui combine l'iconique muscle car américain avec une motorisation électrique de 335 chevaux qu'on a emprunté au Dodge Charger Daytona électrique 2024. Et on propulse le tout par un moteur électrique E-Crate qu'on appelle. C'est une GTX étant moderne, qui est dotée de 4 batteries au lithium-ion pour un total de 73 kWh. C'est environ 400 km d'autonomie. Le but, c'est de créer un genre de resto-mode qui rend hommage à la puissance brute tout en plongeant dans le futur des performances électriques parce que, aïe, 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 c'est pas mal le futur dans lequel on se dirige.
Mais c'est-tu un kit que tu vas pouvoir acheter puis que tu vas pouvoir transférer dans un autre véhicule?
Ben en fait, le E-Crate, là, ce moteur-là, ça va être un peu comme ce qu'on appelle un crate engine. Désolé du terme anglophone, mais un moteur dans la boîte, Paul. Donc, c'est que tu peux commander ce kit-là. Et on se rappelle que Ford avait fait la même affaire, donc avait rendu disponible des moteurs électrifiés similaires à la Mustang, la Mustang électrique. Et on avait permis aux gens justement d'acheter ça, d'avoir toutes les composantes nécessaires pour faire des modifications.
C'est-tu compliqué de mettre un moteur électrique dans un véhicule qui a été bâti pour un moteur à essence?
Ben, toi et moi, on ne s'en serait probablement pas là-dedans, mais une personne qui est habituée de faire des modifications de la restauration de véhicules, sans doute serait très capable. Puis l'autre chose aussi qui devient intéressant, ben, c'est que tu enlèves un millier de composantes, de connexions, d'huile, de trucs qui sont, disons, mécaniquement des fois, qui demandent d'entretien, et on amène une certaine simplicité. Mais il faut faire attention, les supports à moteur, supports à transmission, les longueurs, tout ce qui va être le custom, dans le fond, là, ce qu'on va devoir faire sur mesure, ça te prend un bon modder. Ça te prend quelqu'un qui est capable de faire un projet comme ça. Il y a toujours des surprises dans le monde des véhicules qu'on restaure, qu'on ramène à la jeunesse. Cependant, avec celui-là, là, pour le GTX, on le sait, là, l'Église du Verre, c'est obsédé par la réduction de l'empreinte de carbone. Est-ce qu'on pousse le concept du pardon un peu trop loin? C'est-tu vraiment l'avenir des voitures sportives ou encore juste une utopie électrisante? Ben, écoutez, allumez vos cierges et dites-moi ce que vous en pensez. Mais si on revient sur mon deuxième coup de cœur, c'est le Forerunner, donc Toyota qui a dessiné ça. On l'appelle le TRD Surf Concept. C'est un hommage qui est quand même assez vibrant là, à tout ce qui est la liberté, l'aventure et la culture du surf des années 80. Il y a un super beau vidéo sur YouTube avec l'équipe au complet qu'on présente et qu'on montre comment ils ont créé ce véhicule-là.
Ouais, le véhicule est de toute beauté. Là.
De toute beauté, mais on a pris un Forerunner flambant neuf, quatre portes, on l'a coupé. On amenait ça à deux portes, on enlève le toit, comme dans les premières générations de Forerunner, et c'est différent, il y a un vent de fraîcheur, et c'est signé Toyota au grand complet. D'après moi, s'ils vendent ce véhicule-là à l'encan après, ils vont faire une fortune, on va se garrocher pour l'avoir.
Ça me fait penser, tu sais, style American Pie, là, quand ils partent avec le Bronco là, décapotable.
Ah oui, mais exact. Oui, et le Forerunner était décapotable dans le temps, les Broncos étaient décapotables, on avait beaucoup moins de restrictions au niveau des tests d'impact, au niveau de la rigidité structurelle d'un véhicule, on pouvait s'en permettre un peu plus, mais aujourd'hui, de voir quand même ce clin d'œil-là au passé et de voir à quelle manière on a fait attention aux détails et d'amener un mix de véhicules très récents avec une référence au passé, sérieux, ils ont fait une job incroyable. Bon, la couleur, les designs un peu, j'en enlèverais peut-être sur le côté extérieur du véhicule, mais je dois avouer qu'on a fait un travail exemplaire pour montrer notre savoir-faire d'une équipe signée Toyota. Là.
OK. Il y a des rumeurs concernant Kia là, qui voudraient se lancer dans la camionnette. T'en as-tu plus pour nous concernant cette rumeur-là? Est-ce que c'est vrai que Kia va se lancer là-dedans?
Ben oui, totalement vrai. On lance le Kia Tasman en 2026. C'est le tout premier camion de la marque qui va faire ses débuts. Et on sait que Kia ne fait pas les choses à moitié. C'est un véhicule qui est conçu comme pour vraiment s'imposer là, dans le monde des pick-up robustes. Bien que la commercialisation en Amérique, ce n'est pas confirmé. On arrive déjà avec des caractéristiques qui sont impressionnantes, qui font quand même déjà pas mal tourner les têtes. Dans les statistiques un peu clés, tant au niveau des charges de remorquage, on parle d'une capacité d'au-dessus de 7700 livres. On est capable de franchir jusqu'à 32 pouces d'eau. On a une motorisation à essence et diesel qui va être offerte. C'est quand même une belle longueur et un bel empattement. Et on a différentes options de traction, donc propulsion sur le modèle de base puis du 4 roues motrices, surtout ce qui va être X-Line et X-Pro. Et jusqu'à environ 2600 livres là, dans la boîte qu'on est capable de mettre. Il y a tout ce qui est les accessoires personnalisables, la version tout-terrain, un intérieur high-tech comme on connaît Kia et les Coréens. Cependant, ça va être juste en Corée du Sud qu'ils vont l'avoir dans un premier temps.
On ne l'aura pas chez nous?
Non, pour l'instant, il va être introduit en Australie, Afrique et Moyen-Orient. Là, aucune information qui confirme son arrivée en Amérique du Nord, mais on sait dans le monde de la camionnette compacte, c'est un monde qui est assez agressif et en même temps, on connaît les Coréens d'arriver avec un modèle qui ressort de leur style. En passant, là, c'est un j'aime pas hein, pour le style. Les avis sont très tranchés. Moi, j'aime tout ce qui est différent, ce qui est unique. Est-ce que ça va perdurer dans le temps comme il faut? Malheureusement, je ne suis pas le Jean Héroldi de la mode automobile.
Toi, t'es un gars qui aurait une voiture jaune, mettons?
J'ai jamais dit ça non plus. On va faire attention.
Ça s'arrête là? Ta limite est là?
J'ai quand même des critères, mais si c'est comme la NSX jaune que j'ai vue cependant à Austin, Texas, la semaine passée, je peux te dire que je serais prêt à faire des concessions.
Ouais, ils disent tous qu'ils ont des critères, mais quand il y a un gros bumper avant, ça se passe autrement dans le monde automobile, là, même si elle est jaune.
On pourrait dire ça aussi des relations interpersonnelles, mais si on revient au sujet principal, je vous dirais que Il y a un look qui plaît ou qui plaît pas. Mais ça aussi, c'est comme les relations interpersonnelles. Hein? Tu sais, des fois, ta blonde, elle ne peut pas plaire à tout le monde. L'important, c'est qu'elle te plaise à toi.
Exact.
Et que tu l'aimes.
Oui. C'est si voilà. Bien dit. Hey, dis-moi que c'est pas vrai. Là. Hyundai, ils vont faire un retour à l'hydrogène. Là. Toutes les gens qui ont acheté des véhicules à hydrogène à Québec des dernières années ont toutes voulu se débarrasser de ça très rapidement.
Hey, y a même certains chroniqueurs automobiles, mes anciens collègues.
Mon chum Dan!
Ben oui, mon chum Dan, d'ailleurs, avec qui tu joues au hockey, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Il en avait acheté une. Bon, une chance qu'il n'avait pas payé plein prix, mais de voir sa Mirai très longtemps sur Facebook Marketplace et de voir qu'il ne l'avait pas vendue, ça me faisait quasiment mal au cœur. Parce que le pire, là, c'est que ce n'était pas une mauvaise voiture. La restriction est au niveau du fonctionnement de base. C'est quoi? C'est qu'on ne peut pas, remplir, faire le plein n'importe où de ce véhicule-là. Et tant qu'à moi, c'est une problématique majeure parce qu'on avait quand même témoigné de la part de Toyota qu'on voulait aller à plusieurs endroits, de rendre disponibles nos stations de recharge au travers de tout ça. Mais tabarouette, puis quand je dis recharge, là, c'est de remplir le plein là, de l'hydrogène. C'est pas une recharge électrifiée, parce qu'un véhicule à l'hydrogène a un réservoir. Au Québec, oui, on crée souvent cet hydrogène-là de manière verte. On a une usine, justement, qu'on est en train de parler pour la production. Et c'est tout simplement à cause de ça, la disponibilité, le prix qui est malheureusement à la même hauteur que l'essence par rapport à ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage. Mais Hyundai fait partie des constructeurs automobiles qui voient un avenir là-dedans. Tant pour tout ce qui est, mettons, le transport commercial ou encore le véhicule de tourisme. Et ce qu'on a fait, on a lancé un nouveau concept qui s'appelle Initium, qui veut dire en latin début et commencement. Ça va être lancé en première au Salon de l'Auto de Los Angeles vers la fin novembre. Et bon, on regarde, c'est quand même un style aventure, sportif. Encore une fois, à la Hyundai, où est-ce qu'on dirait qu'on est dans Tron, le film, quand on fait nos designs et nos dessins, on reconnaît les carrés de LED, on reconnaît les formes très angulaires du véhicule. Et il y a trois aspects principaux là, qui ont guidé ce développement-là. On veut quand même un véhicule qui va être performant, qui va donner un 201 chevaux, soit 50 de plus que leur Nexo a présentement. Et on va être capable de parcourir environ 150 km entre les différents ravitaillements.
Ben, c'est quand même très bien, 650 km.
Oui, c'est très bien. Et l'avantage de l'hydrogène, c'est quoi? C'est l'émission zéro. Là, j'entends déjà les auditeurs qui sont fans d'électrique dire que ça n'a pas de sens. Je n'embarquerai pas dans le débat de « ça a-tu du sens, ça n'a pas de sens » parce que, anyway, avec les gens qui sont très, très accro-électriques, c'est très difficile de dialoguer, première des choses. Mais moi, je crois en un avenir automobile diversifié. OK, pourquoi diversifié? Car il y a des besoins différents sur la planète Terre, mais surtout la planète Québec, où est-ce qu'on est capable d'avoir une cohabitation de différentes offres? Et anyway, qu'est-ce qui va dicter le futur efficace? Ce n'est pas les prédictions du gourou vert, ce n'est pas les grands pétroliers du monde. Ça va être là où est-ce que ça va être avantageux pour le portefeuille des consommateurs. Et c'est ça la grande ligne directrice. La journée qu'on va avoir du ravitaillement accessible à bon prix, la journée qu'on va avoir accès à des véhicules à bon prix, qu'ils soient électriques, qu'ils soient hydrogène, qu'ils soient diesel, c'est ça qui va dicter l'avenir de ce qu'on va prendre. Est-ce qu'on peut créer une influence? Sans doute, mais je vais vous le dire, les influences des fois, puis les décisions gouvernementales, et non seulement le lobbyiste électrique, là, ça coûte cher aux influences. Il va falloir y penser dans le futur. Ouais.
Mathieu Thomasin, chroniqueur automobile, j'ai des questions pour toi. En fait, j'en ai une qui est très pertinente. Il reste à peu près une minute au 418-971-1021. L'auditeur cherche un VUS 7 places avec beaucoup d'espace. Lui, il a deux enfants et un chien de 150 livres. Et sa blonde, il donne pas le poids de sa blonde, mais blonde voyage pas léger non plus. Ce qu'il mentionne, c'est qu'on regarde pour un Hyundai Palisade et ou le Kia Telluride. Est-ce que tu as d'autres suggestions dans cette catégorie-là?
Ben oui, il y en a quand même plusieurs au niveau des suggestions. On peut penser aussi au Toyota Highlander, qui reste un choix quand même très fiable et non seulement avec des versions hybrides aussi disponibles. Il y a le Hyundai, le Honda Pilot, excusez-moi. Donc, le Honda Pilot qui est vraiment une construction assez robuste, quelque chose d'intéressant. Et on joue quand même aussi beaucoup au niveau de la fiabilité. Non seulement, on a donné un allure plus camion que minivan dernièrement. Les fameux Mazda CX-90 aussi au travers tout ça avec une bonne capacité de remorquage. Et si jamais on veut se diriger vers des choses qui coûtent plus cher, mais faire attention aux fiabilités, le Jeep Wagoneer. Et on aura même le Audi Q7 aussi qui nous permettrait là, de transporter la famille avec lui. Si j'avais un choix à faire, côté budget, les Coréens sont fort intéressants avec une bonne garantie. Mais si je pense long terme, Highlander Pilot CX-90, rendu là, il faut les essayer et choisir celui qu'on préfère.
Mathieu Thomassin, pour les gens qui veulent te voir, t'entendre, discuter avec toi, on peut te retrouver à quel endroit?
Bien, on me retrouve sur Question Auto sur Facebook et vous allez voir qu'on a un style assez unique. Hein. On se le fait dire dernièrement là, qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à ce que les journalistes leur répondent et les challenge sur leurs réponses un peu spéciales. Puis je leur réserve toujours en disant qu'ici, ben, c'est pas le guide de l'auto. Vous allez avoir un avis franc et parfois tranchant. Puis oui, des fois, nos posts amènent des questions. Quand ça touche l'électrique, je le sais là, que les propriétaires de Tesla sont comme des mouches au travers d'une lumière. Mais préparez-vous, nous autres, on vous répond. Puis on ne cherche pas à savoir qui a raison. On veut vous poser des questions. Ça serait intéressant que vous nous répondiez au lieu de nous sortir la doctrine philosophique. Mais on vous aime quand même, peu importe l'automobile que vous avez. Tant que ça a un moteur, que ça avance et que ça bouge, même celui qui a un automobile jaune, on vous aime.
Merci beaucoup.
À plus.
Salut, salut Matt.
Matt, qui veut s'en aller aux États-Unis pour les élections présidentielles. Peut-être que ce sera notre chroniqueur sur place.
Ouais, s'il est en mesure de l'être.
Ouais. J'ai demandé à l'auditeur, c'était quoi son chien de 150 livres? Parce que 150 livres, ça commence à être de la bête, là.
Ouais.
C'est un Leonberg. Gassé à grosseur.
Je connais pas ça. Oh, oh, pas là.
Ça, c'est de l'amour.
Ah, parce qu'il montre une photo d'un homme.
Ouais.
À côté de ce chien.
C'est un gros toutou.
Faut qu'il ait une belle attitude douce, hein? Gros de même, là.
Mais la plupart de ces chiens-là savent pas qu'ils sont aussi gros que ça.
Non, fait mais moi, je pourrais pas promener toutous. Ça. C'est sûr, je peux pas promener ça. Il part à courir après un écureuil, c'est fini, là.
Ben, c'est arrivé à ma blonde. C'est arrivé avec ma blonde, avec le Golden. Elle était dans une pente, elle était en train de faire son jogging. Le Golden, il a vu un ami, il a décidé, lui, qu'il se souciait pas de sa maîtresse, puis il a décidé de partir.
C'est
ma blonde a fait un vol à l'horizontale pour atteindre le sol avec sa face par la suite. Partir en ambulance. Mais c'est ça, quand c'est gros, là, c'est... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de chance à prendre.
Faut penser à tout avant d'adopter un animal. Hein?
Oui, puis c'est l'éducation aussi. L'éducation qui est hyper importante. Midi 54, on vient. Marceau, le midi.